Radio Okapi. Grande interview.
La problématique de la réforme de la justice depuis l'éclatement de la Cour suprême de justice en trois hautes juridictions, cette réforme reste toujours inachevée. Pas de conseil référendaire prévu par la loi, non plus des cours et des tribunaux administratifs du ressort du Conseil d'État, sans oublier la carence des magistrats et l'absence de certaines juridictions en province. Pendant ce temps, le chef de l'État fait de l'instauration de l'état de droit une priorité pour son mandat. Quel état des lieux faire du secteur de la justice en RDC? Quelles sont les actions prioritaires et concrètes à mener pour faire de la justice congolaise un vrai instrument d'instauration de l'état des droits? Grande interview reçoit dans ce numéro Maître Évariste Kazadi. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete ainsi que de Lubumbashi. Avec lui, nous abordons les différents problèmes qui gangrènent la justice congolaise. Produite avec le concours de Jeff Ngoy sous la supervision de Alain Irung, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue dans Grande Interview. Maître Évariste Kazadi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours d'auxiliaire de justice?
Portrait.
Ouais, je suis avocat depuis le 28 février 1997. J'ai commencé par être stagiaire au barreau de Lubumbashi. En plus, je suis passé au tableau à Lubumbashi. J'ai été transféré à Kinshasa à partir du procès de Musée. Travaillé pour la commission justice et paix comme observateur. Après, je suis passé par une institution, BAJPD, qui était créé par la commission pontificale justice et paix pour travailler sur les détentions et la prison de Makala. Après avoir fait 2 ans travaillé dans ce secteur, j'ai dû commencer une carrière personnelle dans un cabinet. Après avoir été associé, aujourd'hui je travaille dans une société civile professionnelle. Je suis gérant d'une société des avocats qui s'occupe des 4 secteurs, notamment la défense judiciaire. Nous avons aussi l'expertise en matière de la protection des droits des propriétés agréée au ministère de l'économie. Nous avons une ONG qui s'occupe des personnes vulnérables, notamment nous travaillons pour les veuves et nous travaillons justement pour les successions.
Portrait.
Alors, vous avez commencé votre carrière sous Mobutu et aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine d'années, dites-nous quels sont les grands changements que vous avez notés dans le secteur de la justice congolaise.
Et quand nous avons commencé la profession, tout était concentré dans certaines juridictions. Je vais vous dire par exemple qu'il y avait quelques cours d'appel dans les provinces, il y en avait au moins 10. Il y avait des tribunaux de paix limités. Et il y avait une difficulté réelle de relier les justiciables à la justice. Sous Moïse Kabila, on a fait l'extension des tribunaux de paix. C'est-à-dire, par exemple, à Kinshasa, on a plusieurs tribunaux de paix et après, c'est là toute la République, les tribunaux de grande instance. Ça a évolué sous Joseph Kabila. Nous nous sommes rendus compte qu'on a même fait éclater les cours d'appel. On avait 11 cours d'appel. Aujourd'hui, nous en avons plus de 26. Et chaque district aujourd'hui représente une cour d'appel. Ce qui veut dire qu'il y a une progression dans l'extension de l'appareil judiciaire. Ainsi, vous vous rendez compte qu'à Inongo, qui avait seulement un tribunal de grande instance comme juridiction supérieure, aujourd'hui nous avons une cour d'appel. À Bandaka, nous pouvons avoir une cour d'appel à Badolité. Ce qui veut dire que sur le plan d'extension de la justice et d'application de la loi, nous avons l'impression que tout grandit et le souci de vouloir rapprocher les justiciables de la justice a semblé avoir pris de l'extension.
Comme vous le savez, avec la dernière réforme, la Cour suprême de justice a été éclatée en 3 juridictions. Quels sont les avantages et les inconvénients de cet éclatement?
Voilà, nous sommes contents. Pourquoi? Parce que La Cour suprême de justice, comme elle était suprême, elle avait concentré toutes les chambres à son sein. Ainsi, les juges devenaient des super juges. En même temps, la matière administrative, ils pouvaient y répondre. La matière constitutionnelle, ils répondaient. La matière judiciaire, ils répondaient. Alors, à ce moment-là, les juges, là, devenaient un peu surchargés. Et il y avait une réelle lenteur à la Cour suprême de justice. Un dossier peut arriver à la Cour suprême en 2011 et l'arrêt de la Cour suprême, en suivant le processus de la procédure, peut être rendu 5 ans, 10 ans après. Et voilà, le justiciable aurait même oublié, l'intérêt public n'existerait même pas. Et l'éclatement de cette ancienne Cour suprême fait qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les juges qui sont à la Cour de cassation n'étaient que des matières de cassation, en matière civile et pénale. Aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'en matière du contentieux électoral et autres, il y a la Cour constitutionnelle qui prend du début à la fin l'interprétation des textes constitutionnels et de lois électorales et ensemble. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'appareil judiciaire a vraiment été devenu plus souple. Et le souci d'atteindre, c'est-à-dire que chaque domaine soit plus souple. Et les juges se forment dans un centre, sans ceux qui sont de la Cour de cassation savent quelle matière les traite uniquement. Et à ce moment-là, l'appareil judiciaire semble être allégé et nous croyons que ça rapproche pour la justice.
Nous avons constaté que dans les provinces, plusieurs juridictions, notamment d'ordre administratif, ne sont pas encore installées. Qu'est-ce qui bloque ? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de programmation ?
Et moi, j'ai remarqué en fait que les juges sont pleins à Kinshasa. Rien que pour la cour d'appel de Matete, il y a une centaine de juges. Tandis qu'à Badolite, une chambre ne peut pas se constituer. Il n'y a que deux ou trois juges qui sont là, à la cour d'appel. Et pourquoi ici, il y a 100 personnes, là-bas, il y a 3 personnes ? Vous arrivez à Inongo, ce sont des défenseurs judiciaires qu'on les prend en matière pénale et les autres comme juges assesseurs. Mais cette notion est dépassée. Parce qu'il y a tellement de concours et tellement l'engagement des juges que les juges doivent aller. Donc, c'est un faux débat de dire que la carence, elle est faite parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Non. Ils sont concentrés en ville. Tout le monde, dès qu'il est muté en province, il devient malade, il est dans l'impossibilité de continuer. Il préfère rester en ville. Mais si on veut équilibrer, les jeunes magistrats avec des anciens magistrats peuvent être déversés dans toute la République. Je crois qu'il y a suffisamment de magistrats qui peuvent couvrir toute la République. Moi, je ne crois pas que le débat en disant qu'il y a carence, non, c'est parce que tous sont concentrés dans les grandes villes. À Gombe, il y a des juges qui siègent une fois tous les 3 mois. Donc, ils sont tellement nombreux là. Il n'y a pas moyen d'organiser le roulement des audiences. Pendant ces temps, quand vous arrivez dans d'autres juridictions, j'étais dernièrement une fois à Inongo, au parquet, il n'y a que 2 personnes. Au tribunal de grande instance, il n'y a que le juge président et 1 personne. À Sakanya, par exemple, il n'y a pas de juge. Le juge président reste seul. Il ne peut jamais siéger en matière. Bon, ceux qui sont détenus, c'est le parquet qui peut résoudre. Il peut faire maintenant du juge traditionnel, hein, et pas le juge de droit écrit. Donc, c'est quand même pas un problème de carence de personnel, mais c'est une mauvaise application de leur mutation, de leur concentration dans les villes.
Vous êtes à l'écoute des radios Okapi. Grande interview reçoit Maître Évariste Kazadi, avocat depuis plus de 20 ans au barreau de Kinshasa Matete et celui de Lubumbashi. Maître, dites-nous, si on vous demandait de poser un diagnostic de l'appareil judiciaire congolais, quel problème identifierez-vous ?
Voilà, aujourd'hui, après avoir fait une carrière longue dans la justice, nous nous rendons compte de plus en plus, la justice s'éloigne du palais de justice. Les juges sont là, mais les justiciables n'arrivent plus à trouver satisfaction. C'est ainsi qu'il y a de plus en plus des gens qui cherchent à aller dans tous les autres sens. Je vous donnerai plusieurs exemples, notamment qu'aujourd'hui, les gens recourent à certaines structures, à certaines personnes qui ont un pouvoir pour intervenir. Donc l'interventionnisme dans les décisions judiciaires devient de plus en plus grande. Un général peut influencer, un policier de haut rang peut influencer, un DG et tout le monde là-bas a maintenant pour dire que je connais quelqu'un qui peut m'aider pour arriver à la justice. Et les juges n'arrivent pas à rendre de façon équitable sa mission qui est de dire le droit et de rendre justice à chaque justiciable.
Parlons de la corruption dans ce secteur. Il se pourrait que sans argent, il est impossible de gagner un procès en RDC, même si la raison est de votre côté.
C'est même institutionnalisé aujourd'hui. Nous avons l'impression, parce que moi j'ai connu même les cas, l'affaire est prise en délibéré, pendant que vous attendez le rendement de la décision judiciaire, le client a été invité, appelé par des personnes qui sont commissionnaires, de dire que tel juge pourrait vous aider si vous donnez de l'argent. C'est ainsi que nous nous rendons compte que pour chaque décision judiciaire, pour qu'il y ait célérité, pour qu'il y ait rendement réel, les justiciables doivent, outre d'avoir défendu le judiciaire, doivent s'organiser pour que les juges soient corrompus pour rendre la justice. Nous sommes de plus en plus inquiets de dire que chaque jugement rendu est monnayé, doit avoir un prix. Et chaque justiciable, avoir raison ou pas, ce n'est plus comme à l'époque. Ceux qui ont tort tenteront de corrompre, ceux qui ont raison espéreront en justice. Aujourd'hui, raison ou pas, vous devez aussi motiver les juges. Et nous sommes en train d'être inquiets de savoir que d'ici demain, on va avoir une tarification d'un jugement à rendre. Le pauvre n'aura plus de moyens, le plus riche pourrait tarifier et on aura un prix pour chaque jugement. Et c'est plus inquiétant aujourd'hui qu'avant.
Et donc en tant qu'avocat, pour espérer gagner un procès, il faut se plonger aussi dans la corruption.
Un dossier, c'est un traitement assez profond. Nous ne sommes pas seulement dans cette matière. Nous avons les moyens de faire des arrangements amiables. Nous avons des moyens de pouvoir contraindre le juge à rendre justice dans certaines matières qui demandent célérité, en matière de famille, en matière de succession, tout ça. Mais en matière judiciaire, il faut être très fort et avoir vraiment des arguments et être vraiment solide.
Alors, qu'en est-il du trafic d'influence et d'une justice pour les forts?
Aujourd'hui, le plus faible avant d'aller en justice, c'est pour la question si je vais gagner en face de... La prison n'est faite que pour les pauvres. Quand vous regardez bien, tous ceux qui ont les moyens ne croient pas à aller en prison. Le rouage est tel que on va influencer. Tous ceux qui sont politiciens, tous ceux qui sont une passée de pouvoir peuvent dicter leurs lois. Et les plus forts n'iront jamais en prison. Et la prison elle est faite pour les plus pauvres. Et de plus en plus, ça devient ce qu'il y a quoi. Même si le plaignant c'est le plus pauvre, il risque d'être condamné à la place du plus riche parce qu'il a donné les moyens ou il a le trafic d'influence.
Mais qu'est-ce qui entraîne tout ça?
La structure du pays, la structure économique, la structure sociale. On a peur du VIP, on a peur du haut. Ceux qui sont en bas regardent de très haut avec peur. C'est ainsi que nous nous rendons compte que le juge, vu ses conditions, par exemple, lorsque un ministre, lorsque un général demande au juge de libérer, il va libérer. De peur de perdre son poste parce qu'il n'y a pas de protection. Et ce trafic d'influence fait que tout l'appareil du judiciaire dépend du plus fort.
Alors comment appréciez-vous la situation socio-professionnelle des magistrats congolais et autres auxiliaires de la justice? Parce qu'on s'est dit peut-être que c'est la précarité qui les plonge dans la corruption et la concussion.
Nous sommes en train de réfléchir avec beaucoup. Nous voyons à Kinshasa que le palais de justice de la Gombe, le parking est plein de meilleurs véhicules. La 4e rue, le véhicule est plein, le Lubumbashi, le véhicule est plein, qui fait apparaître comme si les juges, les magistrats sont des personnes aisées. Mais à côté d'eux, pour avoir fait des voyages dans les provinces, les magistrats, les juges comme à Inongo vivent là où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Les moyens de transport, c'est un vélo. Et ce qui fait dire que il faut avoir un certain emplacement pour profiter de la situation sociale et jouant de ce statut là-bas pour influencer son pouvoir sur les plus pauvres et se mettre à l'abri. Mais sur l'ensemble général, le magistrat, le juge n'est pas mis dans les conditions de travail à suffisamment décent pour que la justice soit rendue de façon équitable.
Lors de la précédente rentrée judiciaire, le procureur général près la Cour de cassation avait déploré l'inexécution de 3 sur 5 de ses réquisitoires par le Parlement qui protégeait les siens sous couvert des immunités et privilèges des juridictions. Selon le premier président de la Cour de cassation, ce régime des privilèges porte atteinte à l'administration de la justice dans ce sens qu'il crée une république des intouchables. Alors, maître, le premier président propose des réformes de ces régimes pour faire des parlementaires et tous ceux qui n'ont pour juge que la Cour de cassation, des justiciables et des tribunaux des grandes instances avec la possibilité de plusieurs voies de recours. Comment une telle proposition peut être réalisable?
Il faudrait partir de la réflexion réelle, de la notion d'humanité. Aujourd'hui, la loi dit qu'il y a des privilèges de poursuite pour certaines personnes qui ont une certaine autorité pour ne pas les déshonorer face à la justice. Et nous nous rendons compte que ces personnes se réfugient dans ces structures pour échapper à la justice. C'est ainsi aujourd'hui, les parlementaires savent qu'ils ne sont pas poursuivis et tous les anciens responsables dignitaires, détourneurs ou voleurs ou tout ce qu'on peut dire se retrouvant dans ces conditions là-bas, échappe à la justice. La réflexion du premier président, la réflexion du pouvoir judiciaire, c'est de voir une justice équitable pour tous, que tous devront répondre de leurs faits. Aujourd'hui, il y a des institutions, des pays qui ont dit que les immunités sont appréciées non pas par le supérieur, de ces institutions, mais pas le juge lui-même. Et tout le monde est poursuivable, même un ministre, même un député. On n'a pas besoin d'abord d'aller demander la levée des immunités. Et cette réforme est tellement importante, ça pourrait permettre à chaque citoyen d'être responsable, d'être conscient que tout comportement que je vais afficher peut devenir répondable devant les cours des tribunaux. Et ces immunités deviendront maintenant sans valeur et ça permettrait à ce moment-là au juge d'exercer son pouvoir. Sinon, ce pouvoir de juge est bloqué par toutes ces immunités, tous ces blocages faits par les parlementaires et les autres.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit Maître Évariste Kazadi, avocat au barreau de Kinshasa Matete et de Lubumbashi. Maître Évariste, vous êtes avocat depuis une vingtaine d'années maintenant. Si il faut comparer la situation de la justice sous Mobutu, Kabila et aujourd'hui sous Félix Tshisekedi, pouvons-nous parler de la progression ou de la régression?
L'actuel président de la République a prôné un état de droit, que le droit soit dit dans tous les sens. À l'époque de Mobutu, nous avons dit que c'était sous la dictature. Mais si on analyse bien, les justiciables pouvaient savoir que les juges pouvaient rendre justice. Aujourd'hui, on se rend compte que les affaires sont plus en délibéré pendant très longtemps. Il n'y a aucune contrainte. Alors qu'il y a aujourd'hui les structures de contrôle des magistrats, des institutions de structure. Et pour ma part, pour avoir travaillé 20 ans après dans la justice congolaise, nous rendons compte que l'homme n'a plus à espérer dans la justice. Et il y a même une blague qu'une personne nous a dit un jour que pour avoir connu un conflit devant les cours des tribunaux, aujourd'hui il sait que le palais existe. Mais quoi que dans ce palais, la justice n'y est pas. C'est vraiment le trafic du plus fort, la loi du plus fort, la loi de celui qui peut écraser le plus faible le fait. Donc, pour moi personnellement, voyant les choses qui se font, il faut bricoler, il faut monter des astuces pour arriver à une justice. Le parquet pour arriver à faire fixer un dossier, il faudrait avoir beaucoup d'artifices. Faute de quoi la justice n'a pas progressé. Et il y a beaucoup maintenant à refaire encore et de réformer profondément. Et des personnes et de l'appareil lui-même judiciaire et de la notion de justice. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont, depuis qu'ils sont nommés, ils sont à Kinshasa, ou à l'époque de Mobutu, chaque 2 ans, 3 ans, on faisait des permutations. Et ceux qui étaient en ville pouvaient connaître les autres juridictions, connaître les autres milieux, pour rendre la justice. Sinon, le juge aujourd'hui s'habitue à la société et il prend les stratégies en fonction de la société et l'influence sur son pouvoir dans la société du fait qu'ils sont sédentaires, ils ne sont plus nomades comme à l'époque pour connaître le pays, connaître la juridiction et s'approcher de la justice. Ça, c'est mon point de vue sur la dégression de la justice au Congo.
Vous venez de le dire, plusieurs mots rongent l'appareil judiciaire congolais, le problème d'infrastructure en province, conditions salariales, saturation des magistrats dans les seuls ressorts de Kinshasa, l'indépendance du pouvoir judiciaire tant décriée, la concussion, la corruption, le clientélisme et même le tribalisme. Quelle thérapeutique de choc urgente pour crédibiliser la justice congolaise?
Voilà, j'étais très content qu'on ait fait les états généraux de l'enseignement universitaire. Là, on a compris qu'aujourd'hui, que l'enseignement universitaire ne s'adapte plus aux besoins de la société. Aujourd'hui, la justice telle qu'elle est faite, elle ne répond pas à l'équité, au sens du partage de la justice. Aujourd'hui, l'appareil judiciaire est vraiment bloqué. Il faut des réformes profondes. Il faudrait que les magistrats, les juges qui sont à l'âge de prendre la retraite, partent en retraite. Ceux qui doivent arriver soient formés. La remise en question, parce qu'il y avait à l'époque, il y avait même un projet de l'école de la magistrature après l'université. Et tous ces éléments, si on les met en place avec des autorités judiciaires assez solides, nous pourrons faire reprendre la justice. Parce qu'il faudrait arriver à faire rapprocher le justiciable du juge, du palais de justice. Mais ce n'est pas pour le moment le cas. De plus en plus, le justiciable a peur d'aller en justice parce que le rendement est ce qu'il y a là-bas. Il faut des réformes profondes. Former et l'homme et changer l'appareil judiciaire. Changer l'appareil judiciaire, c'est-à-dire de mettre les structures les plus souples que celui qui est à Kananga. Celui qui est dans un village, il sait qu'il est juge, son salaire lui permettrait de vivre sans contrainte. Que celui qui est à Kinshasa et mettre des garde-fous pour des contrôles. Et en même temps, le juge, le magistrat soit toujours formé pour qu'il comprenne l'évolution de la justice du monde. Sinon, il y a des juges qui ont encore des vieilles codes qui sont vraiment dépassés dans certaines matières et ils continuent à y rester. Aujourd'hui, nous allons voir par exemple que en matière de droit économique, nous avons l'OADA. On a changé la structure d'approche de résoudre des conflits en matière commerciale. Mais il faudrait arriver à créer encore des structures pour que la justice se rapproche de plus en plus de justiciables. Ça, c'est l'appareil qui doit être réformé et l'homme doit être refait, formé, suivi, contrôlé, sanctionné en cas de besoin. Voilà vraiment la réforme profonde qui doit être faite.
Est-ce un haut magistrat peut-il être pris à partie par ses pairs pour dol jusqu'à être révoqué ou proposé à la révocation, comme c'était le cas dernièrement au Conseil d'État?
Moi, j'ai toujours été intéressé parce que j'ai fait une petite étude d'analyse. Le dossier contre les magistrats pour en prise en partie, pour concussion, vous vous rendez compte que ce sont parfois des juges inconscients qui ont commis des actes contraires à la loi, qui violent l'éthique du juge et du magistrat. S'il n'y a pas de sanctions dans une société, l'impunité rend le libertinage et il n'y aura pas de progrès social. Il faut que le juge l'épée de Damoclès. D'ailleurs, il faudrait qu'on arrive à réformer comment la prise à partie doit être organisée, pour que le juge qui tombe dans ce cas soit le plus rapidement possible. Parce que la peur, c'est le temps que ça prend le rouage. On a rapproché dernièrement, on a mis dans chaque cour d'appel une commission de discipline, un conseil, une chambre disciplinaire de juges. Il faudrait mettre ça en application et veiller à ce que le juge, dès le départ, sache qu'il y a une sanction en cas de violation du principe de son serment. Voilà, c'est ma réflexion à moi.
Le droit de la défense est-il garanti à travers nos juridictions?
Aujourd'hui, non. Non.
Comment ça?
80% des justiciables n'est pas sûr. Il va y aller pour besoin de la cause, mais c'est aléatoire. Aujourd'hui, nous les avocats, nous ne savons pas quand est-ce qu'une décision judiciaire sera rendue. Aujourd'hui, nous ne savons pas quand est-ce que le juge va et dans quel sens il va aller. À l'époque, quand quelqu'un est fautif, c'est lui qui est inquiet. Mais aujourd'hui, même celui qui n'est pas fautif, la victime est aussi inquiète très souvent. À ce moment-là, la défense n'est pas garantie. Ces réformes que nous décrions là-haut doivent arriver à permettre aux justiciables de croire à notre justice, de croire à ce qui pourrait être fait.
La toute dernière question, au regard de tout ce qui précède, pensez-vous que nous soyons réellement dans un état de droit? Est-ce que la justice congolaise élève cette nation?
Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. L'état de droit prôné, ce n'est pas parce qu'on a arrêté une ou deux personnes assez célèbres, une autorité, qu'on a dit que l'état de droit est établi, non. C'est lorsque chaque justiciable sera convaincu que si je saisis la justice, on me donnera justice. Alors pour moi, nous ne sommes pas encore élevés. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a un grand travail à faire. C'est ça mon point de vue.
Maître Évariste Kazadi, je vous remercie.
En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis d'exprimer. Il y a beaucoup d'autres idées sur lesquelles nous pourrons débattre pour cette justice. Et je crois que ce genre d'émissions doivent beaucoup s'accentuer, se rapprocher pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'est l'appareil judiciaire.
Merci. Fin des grandes interviews sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite avec le concours de Jeff Ngoï sous la supervision de Alain Irung. Michel Kifindangoï vous l'a présenté. Merci de rester fidèle à Radio Okapi. Rendez-vous samedi prochain à 10h05. Merci et au revoir.